Bonsoir tout le monde, bienvenue aux Apatrides Anonymes sur les ondes virtuelles et radiophoniques de choc. Non, pas radiophoniques, c'est pas des ondes hertziennes, non, c'est vraiment en ligne sur les ondes Internet. Donc, de choc.ca, en direct de l'UQAM, émission du 29 juin des Apatrides Anonymes. Mathieu au micro avec vous pour cette heure et dix de contenu et de musique. Contenu, oui, sur les enjeux d'immigration, frontières, racisme, beaucoup d'actualités internationales aussi. On parle de différents enjeux de droits humains aussi dans cette émission. Donc, on était absent depuis... Ben, on avait manqué la dernière émission il y a deux semaines, fait que notre dernière émission remontait au 1er juin, quand même, avec vous. Il y a deux semaines, c'était une reprise, à ce qu'on sache. Donc, saison d'été de choc qui a commencé depuis quelques semaines, qui se poursuit jusqu'à la fin août. Mais nous, on est toujours là aux deux jeudis à 18h30 en direct pour ceux qui nous écoutent en direct. Et pour ceux et celles qui nous écoutent en différé, ben c'est sur notre page sur le site de choc.ca/apatrides anonymes. Donc, ben, je suis en compagnie de Marie-Ève. Bonsoir.
Ben oui, je me demandais si tu allais m'introduire à un moment donné.
Ben oui. Simon est à la mise en onde aussi avec nous.
Allô.
Donc, ben voilà, aujourd'hui, on va parler, entre autres, d'actualités autochtones internationales. On va parler aussi d'enjeux d'immigration Québec-Canada, avec Marie-Ève et moi-même. On va parler de racisme ordinaire et systémique avec Simon, de négationnisme. On va avoir une minute coloniale. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on n'en a pas eu. Simon, c'est quoi le sujet?
C'est la Saint-Jean-Baptiste.
C'est la Saint-Jean.
Oui, Québec.
Nous sommes entre la Saint-Jean et la fête du Canada actuellement. moi, je vais avoir quelques chiffres aussi sur différents enjeux. Et musicalement, on va avoir Bunuel, King Stingray et aussi Charogne. Donc,
Tu vends toutes les punches, Mathieu.
Ah, OK, je savais pas, OK.
Ben oui, les gens vont fermer leur radio.
Mais oui, non, leur poste de radio. Donc, pour nous introduire à cette émission très chargée en contenu et aussi en drame, on doit le dire, un article que je vous suggère qui s'appelle « Deux poids, deux mesures, point d'interrogation ». Mais moi, j'enlèverais le point d'interrogation. Ouais. Je vous lis les premières lignes. « Des centaines de migrants sur un bateau au large du Péloponnèse. Dans une autre mer, cinq richissimes passagers partis explorer l'épave du Titanic dans un sous-marin. Les deux coulent. Ces deux histoires tragiques à quelques jours d'intervalle ont suscité une réaction aux antipodes des autorités et des médias. Pourquoi? » Vous avez sans doute quelques réponses déjà de votre côté, mais allez lire l'article, c'est sur Radio-Canada. Et Marie-Ève, d'ailleurs, va nous reparler de la Grèce au courant de l'émission, dans son bloc Méditerranée et Europe. Dans quelques minutes. Donc, on y va avec notre thème d'ouverture et ensuite, on passe à quelques chiffres. Donc, les chiffres, oui. Premièrement, ben, le secrétaire général de l'ONU a dénoncé, il y a quelques semaines, l'échec de la communauté internationale à protéger les civils des conflits armés. Le nombre de victimes de combats et de leurs conséquences humanitaires ayant augmenté de plus de 50% entre 2021 et 2022. En 2022, les Nations unies ont enregistré au moins 17 000 décès de civils dans 12 conflits armés, soit une augmentation de 53% par rapport à l'année précédente. Rien qu'en Ukraine, on compte près de 8 000 civils tués et plus de 12 000 blessés, et alors que ces chiffres sont probablement plus élevés.
Ouais.
À propos des conséquences humanitaires des guerres, M. Guterres a dit estimer que l'an dernier, plus de 117 millions de personnes ont souffert d'une faim aiguë. Il a dénoncé le sort de civils pris dans les conflits armés en République démocratique du Congo, au Soudan, au Sahel, en Somalie, en Birmanie, en Afghanistan et dans d'autres situations difficiles comme Haïti. Voilà pour mes premiers chiffres, évidemment. On reste en Afrique. D'autre part, les Nations unies ont affirmé avoir évité la famine dans la Corne de l'Afrique grâce à la récolte de 2,4 milliards de dollars pour cette région frappée par une sécheresse catastrophique due au chaos climatique. Il y avait une conférence à New York là-dessus il n'y a pas longtemps. Conférence de donateurs, on le précise.
Ben oui.
Ce sont près de 32 millions de personnes au Kenya, en Somalie, en Éthiopie qui vont bénéficier d'une aide d'urgence grâce aux dons et promesses de pays et organisations internationales. Mais les Nations unies espéraient récolter bien plus d'argent, soit 7 milliards qui étaient nécessaires.
On parle de
2,4,
hein?
Ouais, tout à fait. Rien que pour la Somalie, en 2022, la sécheresse a emporté 40 000 vies, dont la moitié étaient des enfants de moins de 5 ans. Et depuis le début de 2023, plus d'un million de personnes ont été déplacées par les conflits armés, les inondations ou la sécheresse seulement en Somalie, avec plus d'un demi-million d'enfants qui souffrent de graves malnutritions. Cette région de la Corne d'Afrique est l'épicentre de l'une des pires urgences climatiques de la planète actuellement, alors que l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie ne produisent que 0,1% des émissions mondiales de carbone. Évidemment. Après l'Ukraine, oui, mais aider l'Ukraine, oui, mais pas au détriment de l'Afrique. Certains dirigeants africains haussent le ton contre les pays riches, prompts à verser des milliards à Kiev, mais pas toujours au rendez-vous de leurs engagements envers le continent africain. À la dernière réunion du Fonds monétaire international et la Banque mondiale, les pays africains ont exprimé des craintes sur un double standard en matière d'aide internationale. Principale région d'arrivée de l'aide au développement, l'Afrique subsaharienne a vu ceci reculer l'an dernier à 29 milliards de dollars, une diminution de 8%, pendant que celle vers l'Ukraine s'est envolée à 16 milliards contre moins d'un milliard un an auparavant. Puis on parle pas d'armement, là, on parle vraiment d'aide humanitaire, d'aide internationale. Donc on voit ces flux immenses qu'on pensait impossibles à dégager qui sont par magie dégagés aujourd'hui, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Niger. Les pays riches sont aussi critiqués pour ne pas avoir honoré leurs engagements. En premier lieu, le versement de 100 milliards de dollars par année promis en 2009 pour lutter contre les changements climatiques. Et aussi adopté lors de la COP27 de Sharm el-Sheikh l'année passée, un fonds visant pour les pays riches à compenser les pertes et dommages des pays du Sud n'a toujours pas été mis en place. Donc, on voit vraiment qu'il y a des gros problèmes à ce niveau-là. Si j'ai une minute, peut-être pour terminer sur mes chiffres, un nouveau record, ben là, je t'introduis, Marie-Ève, un peu, un nouveau record de 110 millions de personnes déplacées de force qui a été annoncé à la mi-juin. Les récents combats au Soudan ont encore aggravé une situation déjà rendue extraordinaire en 2022 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la crise humanitaire en Afghanistan. Jamais le nombre total de réfugiés fuyant leur pays ou de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays n'avait atteint un tel niveau. Peut-être dire que ces chiffres-là, bon, c'est à peu près 2 millions de plus que fin 2022. Il est à 108 millions, on est à 110 millions de déplacés de force, qu'appelle. Ça comprend les déplacés, les réfugiés, les demandeurs d'asile et tout.
Peu importe les causes.
Peu importe les causes, exactement. L'année dernière, près de 400 000 réfugiés originaires de 38 pays ont pu rentrer chez eux, tandis que 7,5 millions de personnes déplacées ont pu rentrer chez elles. Les pays qui accueillent le plus de réfugiés sont encore une fois la Turquie à plus de 3,6 millions, l'Iran 3,4, la Colombie 2,5, l'Allemagne 2,1 et le Pakistan 1,7 millions. Donc voilà pour ma série de chiffres. J'espère que vous n'êtes pas trop assommés. Allez réécouter si ce n'était pas clair. Et puis, il y aura d'autres chiffres sur l'immigration au Québec-Canada dans la deuxième partie d'émission. Donc, Marie-Ève, tu nous parles de l'Union européenne et de ce qui se passe en Méditerranée.
Oui, ben je vais commencer par l'Union européenne comme telle, puisque les 27 pays sont finalement parvenus à un accord là, sur la réforme de la politique migratoire qui était en négociation depuis 3 ans. L'accord ouvre donc la voie au pourparlers avec le Parlement européen en vue de l'adoption du pacte sur l'asile et la migration, c'est le nom, avant les élections européennes de juin 2024, c'est ce qui est espéré. Alors, qu'est-ce que contient cet accord? Deux choses principalement. D'abord, un mécanisme de solidarité entre les États membres dans la prise en charge des personnes migrantes. Concrètement, ça veut dire qu'environ 30 000 demandeurs d'asile vont être relocalisés chaque année dans un pays de l'Union européenne. On parle d'une solidarité obligatoire, mais flexible, entre guillemets. C'est que les États membres vont être tenus, oui, d'accueillir un certain nombre de ces demandeurs arrivés dans un pays de l'Union européenne soumis à une pression migratoire. Et les pays qui refuseraient d'accueillir des migrants, devraient payer 20 000 euros pour chaque demandeur d'asile non relocalisé, ce qui n'est pas une mince somme. Et ces sommes-là seraient versées dans un fonds géré par la Commission européenne et destinées à financer des projets liés à la gestion des migrations. Le deuxième point de l'accord principal, c'est un examen accéléré des demandes d'asile, soit 12 semaines maximum. Et en plus, ça se ferait directement dans des centres situés aux frontières de l'Union européenne pour les migrants qui ont statistiquement le moins de chances de se voir accorder le statut de réfugié. Le texte de l'accord nomme, par exemple, les ressortissants du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal, du Bangladesh et du Pakistan. L'objectif, ben, vous l'aurez deviné, hein, c'est de faciliter le renvoi de ces personnes migrantes-là vers leur pays d'origine ou de transit.
Oui.
Certaines mesures n'ont pas été retenues parce qu'il y a une dizaine de pays qui s'y sont soit opposés ou ont émis des réserves. C'est le cas, par exemple, de la volonté de certains pays là, de verser de l'argent aux pays en première ligne dans les arrivées de migrants. En échange, ces États-là auraient géré eux-mêmes l'accueil des exilés. Et bien là, ben, sans surprise, l'Italie, entre autres, s'est farouchement opposée à cette proposition-là. Je cite le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi.
L'Italie, bien prononcé, Marie-Ève.
N'est-ce pas? L'Italie ne sera pas le centre d'accueil des migrants au nom de l'Europe. Voilà.
Ah, c'était pas déjà le cas?
Ben, ils sont en première ligne. Hein?
Ben, c'est ça.
Il y a aussi l'Italie et la Grèce, entre autres, là, qui réclamaient de pouvoir renvoyer des migrants déboutés du droit d'asile vers des pays tiers sûrs.
Ouais.
Donc, soit dit en passant, la Turquie fait partie.
Mm-hmm.
Donc des pays tiers sûrs par lesquels ils ont transité, et ce, même en l'absence d'autres liens, famille, travail, entre les migrants et ce pays-là. Autrement dit, c'est comme un règlement Dublin puissance 10.
Ouais.
Une idée à laquelle l'Allemagne était pour le moins hostile. Le compromis, si on peut appeler ça comme ça, c'est que prévoit que ce sera aux États membres de juger si le simple transit constitue un lien suffisant.
Mm-hmm.
La Pologne et la Hongrie ont voté contre la réforme totalement.
Au complet, ouais.
Tandis que la Bulgarie, Malte et la Lituanie et la Slovaquie se sont abstenus. Je cite notre cher premier ministre hongrois, Viktor Orban.
Mm-hmm.
Bruxelles abuse de son pouvoir. Ils veulent relocaliser les migrants vers la Hongrie par la force. C'est inacceptable.
Juste en Hongrie, hein?
Oui. Ouais.
Donc, ça n'a pas passé, finalement?
Ben oui, il a passé. Ça a été adopté.
À majorité.
Oui, mais c'est, okay. C'est un texte d'accord. Après, il faut que ce soit comme
appliqué,
je disais.
Appliqué, oui, c'est ça.
Non, pas juste qu'il faut qu'il soit appliqué, il faut qu'il soit ratifié par Parlement européen.
Exactement.
Donc, d'ici le 24 juin 2024. Fait que ça, c'était les réactions, comme je disais, Pologne-Hongrie. À gauche, le nouveau pacte est aussi dénoncé, mais avec des bonnes raisons cette fois-là, pas comme celle d'Orban.
Ouais, okay.
On craint que le pacte entraîne des détentions massives, des pushbacks encore plus violents, là, ces refoulements illégaux de migrants, une nouvelle dégradation des droits des personnes migrantes, dont le droit fondamental à l'asile. Et que ça légitimise aussi la détention des enfants, puisque l'accord stipule littéralement que les enfants et les mineurs non accompagnés peuvent également être placés en détention sous certaines conditions.
Okay.
Et puis, ben c'est ça. Pendant ce temps-là, les gens continuent de mourir sur les routes migratoires. Il y a bien sûr eu les quelques... T'en as parlé au début, les 600 morts du naufrage au large de la Grèce récemment. D'ailleurs, dans une entrevue à l'émission Midi Info de Radio-Canada Première, Duccio Staderini, le chef de mission de Médecins sans frontières pour la Grèce et les Balkans, lui, il trouve même pas les mots pour décrire la souffrance dont l'équipe spéciale de MSF en santé mentale a été témoin lors des séances de groupe et des séances individuelles qu'ils ont tenu avec les 104 rescapés du naufrage.
Mm-hmm.
Ces personnes-là sont non seulement traumatisées par le fait d'avoir côtoyé la mort pendant le voyage, d'avoir perdu des proches, mais aussi par le avant, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles ces gens-là sont partis malgré les risques qu'ils couraient. Et c'est difficile d'imaginer que ces personnes-là vont pouvoir un jour se remettre complètement de ces traumatismes-là. Et ce naufrage-là, ben, c'est juste la pointe de l'iceberg, puisque il y a l'OMS, pas l'OMS, l'Organisation mondiale des migrations qui a sorti, oui, ça, l'OMS.
L'OIM.
L'OIM, pardon.
Ouais, ouais, ouais.
Qui ont sorti les chiffres de 2022. Et pour 149 400 personnes qui sont parvenues à traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe, il y en a plus de 2400 qui sont mortes ou portées disparues.
Mm-hmm. Ouais.
Et depuis début de 2023, on parle de près de 1200 personnes déjà. Puis si on remonte à 2015, ben, c'est près de 25 000 personnes migrantes mortes ou portées
depuis 2015.
Disparues dans la Méditerranée.
Ouais. Ouais.
Plus largement, l'OIM évalue à près de 4 000 le nombre de personnes mortes sur les routes migratoires de l'intérieur et à partir du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, terre et mer confondues.
Ouais, c'est ça, terre aussi, hein?
Ouais. Ouais. C'est une augmentation de 11 % par rapport à 2021, ce qui fait 2022 l'année la plus meurtrière depuis 2017. Cette région-là, le MENA, qu'on appelle, représente plus de la moitié du total des près de 6900 décès enregistrés sur les routes migratoires dans le monde. Une des causes de cette augmentation-là, ben, l'adoption de mesures, par exemple, par l'Italie et la Grèce, qui tendent à décourager les sauvetages en mer. Et je vais terminer en citant Duccio Staderini de MSF.
Mm-hmm.
C'est le résultat d'une politique, délibérée qui est en train de fortifier l'Europe pour empêcher ces milliers de personnes de rentrer, comme si c'était ça l'enjeu, un problème qu'on devrait affronter, plutôt que de mettre en œuvre des politiques d'accueil et de structurer une prise en charge qui permette d'éviter ce genre de catastrophe. On est en train de construire des barrières pour fermer l'Europe à tous ces désespérés et on le fait en transformant un système d'accueil en système de détention et en mettant en place un système de déportation.
C'est clair.
Tout est dans tout.
Tout est dans tout. Puis avec tout ce qu'on voit depuis quelques semaines, on parlera, il y a les Canaries, il y a eu beaucoup aussi de naufrages et de morts dans les dernières semaines. On n'en parle pas ce soir, mais encore l'Europe, encore les portes de l'Europe. Ouais,
exact.
Fait, ouais. Merci Marie-Ève pour ce bloc EU, Union européenne, UE, et Méditerranée. Donc on va essayer d'écouter une première chanson. Simon, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, on va essayer, comme tu dis.
On va voir. Écoute, sinon, je reprendrai le micro. Fait qu'on va écouter le groupe montréalais Charogne et la pièce Fuck Date.
Fuck date, booty call, late night, shitty deck, shitty X, triple X, drawn text. I say next, triple X, watch me flex. Dick like a T-Rex, paychecks, latex. Don't fuck the prospect, bad sex. Dick pics, play text, rough sex. Fake climax, Xanax X, respect. Treat me like an object, you do love your own reflection. Expect, reject, ghost text, stress gets. Don't give me your address, rip my dress. After sex, cigarette, I confess, I'm depressed. Do you have common sense? Start over, expect quick sex. Can you go back to your own address? I have to flex. Se pointer dans ton show, dénoncer ton numéro. T'es mieux de partir au deuxième verse. Because with my girls we have more than enough. Fuck those women in my body and my voices. We are on top. We are on top. We are on top. Tombe un décollant, ton engagé sur une couple de choses d'années, c'est déjà sans data. Watch out, on s'en vient te ramasser, te dénoncer, exiger qu'ils engagent des femmes pour te remplacer. LGBTQ+, c'est notre time to shine et regarde-nous bien aller. We are on top. We are on top. Pointer dans ton show, et non, c'est ton numéro. T'es mieux de partir au deuxième verse. Because with my girls, we have more than enough. Fuck those voices, it's our bodies and our voices. We are on top.
Le quatuor féminin et féministe de Montréal charogne avec la pièce Fuck Date, le texte bilingue avec un beau petit accent francophone en anglais, là, c'était super, et des paroles assez intéressantes. L'album Trigger Warning, sorti tout récemment en mai dernier, il y a un mois, c'est en 12e position du palmarès franco de Choc. C'est un groupe qui existe depuis 2017, qui a donné plusieurs concerts, et d'ailleurs, ils seront en concert ce samedi 1er juillet à la Sala Rossa à Montréal avec le légendaire groupe hardcore General Fools. Donc, je vous fais un petit micro sur pour introduire tranquillement Simon sur les sujets du les enjeux du racisme. Donc, je vais commencer avec des personnes niant les abus perpétrés au sein des pensionnats autochtones ont tenté de creuser sur les terrains de l'ancien pensionnat de Kamloops où 215 tombes anonymes ont été identifiées en 2022. Des négationnistes sont entrés sur le site sans autorisation. Certains sont venus en pleine nuit munis de pelles. Ils ont dit qu'ils voulaient voir par eux-mêmes si des enfants étaient vraiment enterrés là. Peut-on lire dans le rapport publié par l'interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les sépultures anonymes en lien avec les pensionnats autochtones? C'est une femme qui a été nommée pour faire le suivi un peu de toutes les découvertes et des tombes qui ont été révélées, qui a été nommée par le gouvernement. Donc, elle a fait un rapport, entre autres, là-dessus. Le rapport note aussi que d'autres visiteurs, incluant des représentants des médias, ont été irrespectueux en prenant des vidéos et des photos du site sans permission. D'autres Premières Nations, comme celle de Kawasis, en Saskatchewan, disent avoir dû faire face au même irrespect de certains médias et à la même vague de haine sur les réseaux sociaux après l'annonce de la présence de tombes anonymes. Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, s'est dit ouvert à appliquer les mêmes sanctions criminelles et civiles à ceux qui nient les abus des pensionnats autochtones que celles existant contre les personnes niant ou minimisant l'existence de l'Holocauste.
OK. Donc, même allant profaner ces lieux-là, franchement.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Puis mon autre nouvelle pour t'introduire, Simon, le chef du service de police de la ville de Montréal,
j'en parle aussi tantôt,
refuse de décréter un moratoire sur les interpellations de routine malgré un deuxième rapport indépendant qui conclut encore que les personnes racisées sont ciblées de manière disproportionnée par cette pratique policière. Le rapport est sorti la semaine passée. Fadi Daguerre a fait ses commentaires après avoir déposé le rapport de 4 universitaires sur les interpellations policières et le profilage racial. Il a admis qu'un tel moratoire constituerait un geste symbolique attendu par certains, mais le nouveau chef du SPVM assure qu'il préfère régler le problème à sa source. Les chercheurs de 4 universités québécoises ont examiné les données de 2021 et ont constaté encore une fois que les Montréalais autochtones étaient 6 fois plus susceptibles d'être arrêtés que les Blancs. Les données ont montré que les personnes noires étaient 3,5 fois plus susceptibles d'être arrêtées et les personnes arabes 2,5 fois. Les chercheurs recommandent aussi dans leur rapport, en plus du moratoire, que soit un examen approfondi de l'interpellation. Qu'est-ce que c'est? Ses dimensions juridiques, l'encadrement de sa pratique, sa contribution à la lutte contre la criminalité, réelle ou fictive, ses effets généraux sur la sécurité publique, etc. Mais le SPVM veut régler ça à l'interne en faisant de la formation, donc ça bougera pas de ce
encore
côté-là.
Encore des tutoriels.
Oui, puis des... des webinaires sur l'heure du midi avec son sandwich.
Oui, pas obligatoire.
Donc, Simon, tu nous parles de quoi?
Ben là, on va continuer avec M. Daguerre, qui est chef du SPVM, là, qui a annoncé récemment un programme d'immersion des nouveaux futurs policiers, clair, dans des milieux dits sensibles, dans des quartiers plus défavorisés, des communautés immigrantes, des gens aux prises avec des dépendances. Le but étant de rapprocher les gens de la police, mais surtout de redorer son image qui est possiblement amochée dans certaines communautés qui vivent le profilage, le harcèlement et la répression.
Oui.
Programme qui sera un peu un calque de ce qu'il avait mis en place à Longueuil et dont l'annonce a été très mal accueillie. C'est ce que nous apprend un article de Pivot.Québec qui s'intitule « Ils ne vont jamais connaître notre réalité. Les jeunes et la police communautaire. »
Oui.
C'est la journaliste Léa Beaulieu-Kratchanov qui est allée sur le terrain interviewer plein de monde, mais surtout des jeunes personnes racisées. Et les réactions sont unanimement contre et sont carrément hostiles au programme. On dit que ça va juste faire augmenter la présence policière, qui est déjà souvent source d'insécurité et même de peur, et qui est déjà de toute façon extrêmement présente, nombreuse dans certains quartiers.
Mm-hmm.
On ne croit pas que ça va donner de résultats concrets ou déboucher sur du positif dans la relation de la police avec certaines « clientèles », entre guillemets. Il y a même une jeune interviewée qui dit « Dans mon quartier, tu peux pas marcher sur un coin de rue sans voir des voitures de police faire un tour. » Donc, qui dénonce un peu l'omniprésence, ce qui est Bref, puis on dit de toute façon que la police est très souvent déconnectée de la réalité. On apprend dans l'article que seulement 16% des effectifs du SPVM habitent Montréal.
Ah oui, hein,
donc
quand
plus
même.
Que 8 policiers sur 10 habitent dans des banlieues qui bien souvent sont très homogènes. Donc c'est pas un stage de quelques semaines dans un quartier plus urbain, exotique, qui va changer les mentalités en profondeur, là, on s'en doute bien.
Mm-hmm.
Comme ce sera pas des formations non plus pour le profilage. Pour les interpellations.
Des webinaires.
Des webinaires, pardon, mon jargon informatique est à améliorer. Et on en revient dans l'article aussi sur le financement. On répète que c'est vraiment vers le communautaire qu'il faut diriger des ressources supplémentaires et non sur la police, ce qui est une vieille revendication qui n'est pas du tout entendue à Montréal Absolument. Dans les dernières années. Non. Maintenant, on change de sujet. Quelques chiffres les plus récents de Statistique Canada sur les crimes haineux. Rapport qui est facile à trouver en ligne. Le titre est le suivant. Les crimes haineux déclarés par la police 2021. Donc, on a maintenant les chiffres de l'année 2021. Ça paraît peut-être pas très récent, mais c'est un recensement qui, paraît-il, est assez complexe à réaliser. Parce qu'avant de pouvoir classer un méfait, une agression ou du vandalisme comme un crime haineux, il y a plusieurs étapes. Parfois, il faut qu'une enquête ait été menée à terme avant de pouvoir déclarer, avant de pouvoir apposer le stamp crime haineux. Il faut aussi signaler que les chiffres sont très incomplets par rapport à la réalité, puisqu'il faut que les incidents aient été dénoncés. Que les victimes portent plainte officiellement et que la plainte soit reçue et traitée convenablement, ce qui est loin d'être toujours le cas actuellement. Donc, je ne vais pas vous assommer avec tous les chiffres, je vais juste vous en donner quelques-uns qui sont peut-être un peu plus significatifs. Ce qu'on apprend n'est pas très réjouissant, donc à tous les niveaux, on est en augmentation.
Mm-hmm.
Des grosses ouais. augmentations, augmentation générale des crimes haineux entre 2020 et 2021 de 27%.
Mm-hmm.
3360 crimes haineux recensés en 2021. Si on compare 2021 à 2019, ça fait encore plus peur. En deux ans, une augmentation de 72%.
Quand même.
Si on prend le nombre de crimes haineux ciblant une religion, n'importe quelle religion, on a une augmentation de 67%. L'orientation sexuelle, 64%. Et la race ou l'origine ethnique, c'est un peu plus stable à 6%.
OK.
D'ailleurs, pour donner une idée de l'ampleur du phénomène, il y a même un programme fédéral qui existe, le programme de financement, il est un peu long, non? C'est le programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque, c'est le nom complet, qui couvre 50% des coûts liés à la sécurité jusqu'à concurrence de 100 000 $ par projet. Programme qui est de plus en plus sollicité et qui est beaucoup utilisé pour aider à sécuriser des synagogues et des mosquées particulièrement.
Mmh.
Le nombre de crimes haineux a augmenté dans toutes les provinces et dans tous les territoires en 2021, sauf au Yukon. Donc, je ne sais pas s'il y a une diminution de population au Yukon. Orientation sexuelle, c'est pas plus précis que ça dans le rapport de Statistique Canada. Donc, tout ce qui est identité de genre, personne trans, il n'y a pas vraiment de ventilation des données.
Okay.
Donc, c'est difficile d'avoir un portrait très clair, ce qui aurait pu être intéressant parce que quelque chose me dit que 2023 va être une année record de transphobie, entre autres, avec les débats très malsains qui sont importés ici par certains chroniqueurs et politiciens.
Oui, aujourd'hui, il y a 3 personnes qui ont été poignardées dans une école en Ontario, des personnes...
oui, à l'université à Waterloo, j'ai vu ça.
À l'université, oui, ouais, à l'université de Waterloo.
Oui, puis ce serait vraisemblablement un crime transphobe.
Oui, oui, tout à fait, ouais.
Bon, par contre, les personnes les plus visées par des comportements haineux au Canada restent de loin les personnes juives, qui représentent un peu moins que 1% de la population canadienne. Victime en 2021 de 487 crimes haineux. La communauté musulmane, de son côté, qui compte pour à peu près 5% de la population, elle a connu la plus forte progression, donc 71% de plus de crimes haineux par rapport à 2020. J'arrête avec les chiffres. Je vais vous inviter à consulter le rapport de Statistique Canada. Il y a plein de tableaux aussi intéressants que déprimants. Par exemple, crimes confirmés comme étant motivés par la haine et ceux soupçonnés de l'être selon le type de motif. Donc, c'est quand même assez vraiment scientifique.
Avec plusieurs motifs, oui, c'est sûr. Ouais.
Puis, on y apprend, entre autres, que l'incapacité mentale ou physique et même l'âge peuvent être des facteurs motivant la haine.
Mm-hmm.
Maintenant, je pense qu'il me reste un petit peu de temps. Une nouvelle en lien avec des propos haineux tenus par un professeur de ECR, le cours Éthique et culture religieuse.
Ouais, ouais, ouais.
C'était dans une école secondaire à Côte-des-Neiges. Il a été sanctionné par le Centre de services scolaires de Montréal suite à des plaintes d'élèves qui ont été très choqués par ses comportements, ses propos. Je vais essayer de vous résumer. Donc, dans le local de classe, il y a une grande carte géographique qui montre la distribution des religions dans le monde. Tout ce qui réfère à l'islam est caché par des papiers que le professeur a collés sur la carte. Et quand les élèves lui demandent « Pourquoi tu as mis des papiers sur les régions plus musulmanes? » Bien, il leur dit que c'est parce que le prophète aurait épousé une enfant, ce dont on n'a absolument aucune preuve, et ça relève surtout de la petite provocation toxique et xénophobe. Donc, il a demandé aux élèves de lui démontrer qu'il avait tort. Il leur a dit qu'il parlerait moins de l'islam que des autres religions. Ça s'est un peu enflammé dans la classe. Donc, peut-être rappeler que le but du cours ECR, c'est le dialogue, l'ouverture envers les autres et le respect en général. Donc, ça demande une certaine neutralité et beaucoup de sensibilité, ce qui manquait à ce professeur qui a été suspendu un certain temps, mais qui enseigne maintenant dans une autre école et il enseigne toujours éthique et culture religieuse.
Ben, écoute, on le transfère, hein? Ben oui.
Ben oui, on a parlé du côté de la commission scolaire qui ça prend une gradation des sanctions. Là,
ben pas. Oui.
En tout cas, moi, ça me semble un petit peu aberrant.
Moi, comme sanction, je le forcerais à donner un cours de poterie.
Ah, ben oui, ben... juste pour y assister, Marie-Ève, je suis sûr que c'est ça. donc, c'est pourquoi il y a plus de 500 personnes, des parents, des élèves de l'école, mais aussi des membres de la communauté musulmane de Côte-des-Neiges qui ont signé une plainte qui a été acheminée au ministère de l'Éducation et qui demande que le permis d'enseigner du professeur lui soit retiré. Ça, c'est 7 mois après les incidents et on attend toujours un retour de la part du ministre Drainville qui semble simplement avoir décidé d'ignorer cette lettre de plainte. Je termine ce segment racisme avec une suggestion de lecture d'un éditorial de Francis Dupuy-Déry qui est publié dans Pivot.Québec aussi. Mm-hmm. Le titre « L'homme blanc se porte très bien à l'université, nouvelle du front de la guerre culturelle », c'est en réaction à certaines personnalités, notamment aux États-Unis. Et ici aussi avec Joseph Facal qui entretient le mythe comme quoi l'homme blanc hétéro ne pourrait plus être embauché à l'université, entre autres. Donc, Dupuy-Déry, qui enseigne à l'UQAM, en profite pour nous expliquer plutôt comment se déroulent les processus d'embauche. C'est intéressant, j'ai appris des choses. Il nous rappelle, entre autres statistiques, que 60% des professeurs d'université au Canada sont des hommes. Il nous fait un petit portrait des dernières embauches dans les départements qu'il connaît ou que ses contacts connaissent à l'UQAM ou ailleurs. Et le constat était très, très, très loin des propos alarmistes comme quoi l'homme blanc ne se ferait plus embaucher pour enseigner à l'université. Il débunk aussi un autre mythe, celui selon lequel les sujets de mémoire et de thèse, ce serait que du wokisme mur à mur, soit avec des orientations féministes ou antiracistes. Encore là, vraiment pas, il semble que ce soit plutôt la guerre et les politiques publiques qui intéressent le plus les étudiants à la maîtrise et au doctorat.
Ben super, Simon, je me semblais qu'il y avait encore des profs blancs à l'université.
Il y en a encore, ben mais oui, s'ils se font plus embaucher, il n'y en aura plus bientôt. Ouais,
ils sont tous chargés de cours.
Ils ont tous 85 ans.
Merci beaucoup pour ce segment sur le racisme ordinaire et systémique, il faut le préciser. On y va avec quelques notes de musique et ensuite Marie-Ève me rejoint pour parler d'immigration. Immigration ici au Québec et au Canada. Donc, je vais commencer avec quelques nouvelles en bref. Et ensuite, Marie-Ève va faire, aller plus dans l'analyse d'un sujet en particulier. Donc, le gouvernement du Québec, vous l'avez vu il y a quelques semaines, propose 2 scénarios pour l'immigration permanente au Québec pour la période 2024-2027. La première vise l'augmentation graduelle jusqu'à 60 000 nouvelles personnes en 2027. C'est vraiment, on renie notre parole des dernières années. Tandis que la seconde préserve la promesse de 50 000 immigrants par année. On vous l'a déjà dit, il y aura consultation parlementaire à l'automne prochain, mais déjà, on voit que le gouvernement de la CAQ essaie de marcher sur la peinture et de
c'est une très jolie expression.
Oui, et d'élever la cible potentielle. Mais là, on parle toujours d'immigration permanente parce que les résidents non permanents, la proportion dans la population canadienne est en hausse, révèle le Stat Canada. On en a parlé souvent, qui n'était pas comptabilisé, puis qui était souvent des centaines de milliers au Québec et au Canada. En 2021, ils étaient près de 2 millions de personnes, 924 000 personnes, soit environ 2,5 % de la population. On rappelle qu'on parle ici des gens qui ont un permis d'études, permis de travail, qui sont des demandeurs d'asile ou autres statuts temporaires. Les RNP, comme dit Statistique Canada, les résidents non permanents, ont été dénombrés pour la première fois lors du recensement de 1991, mais avec des données incomplètes. À cette époque, on estime qu'ils représentaient 0,8 % de la population canadienne, soit un peu moins que 22 500 personnes. Fait que là, on est quasiment à 1 million. Donc, 40 % permis de travail, 21 % permis d'études, demandeurs d'asile 15 % permis de travail et études, il y en a qui ont les deux, 15 % et autres types 8,7 %. Leur origine varie selon la province de destination, Mais les lieux de naissance les plus fréquents d'un océan à l'autre, à l'exception du Québec, étaient l'Inde à 29 % et la Chine à 11 %. Ça, c'est sur les 900, les, presque un million.
OK.
Au Québec, ce sont les ressortissants français qui étaient les plus nombreux à 20,4% en 2022.
Du coup,
oui, sur Montréal.
On parle de criminels, hein?
Il y a, bon, sinon, ben, il y a deux semaines, il y a eu aussi une marche entre Montréal et Roxham à l'appel de plusieurs organismes de défense des droits d'asile au Québec. Ça tombe, ben, c'était contre la fermeture du chemin à Roxham, mais ça a tombé au lendemain d'une certaine décision unanime des juges de la Cour suprême du Canada qui maintiennent la constitutionnalité de l'entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis sur le traitement des demandeurs d'asile. Je vous parlerai pas en détail de la décision parce que les médias en ont parlé, mais c'est quand même particulier parce que les plaignants, c'était des demandeurs d'asile originaires du Salvador, de l'Éthiopie et de la Syrie, qui étaient rentrés par des postes frontaliers réguliers. Il était appuyé par Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty. Et la Cour a comme décidé que l'article 7, qui protège, ben, qui garantit le droit à la vie, la liberté et la sécurité, n'était pas remis en question par le fait d'être renvoyé aux États-Unis et d'être souvent emprisonné et déporté sans vraiment que le dossier soit étudié et qu'il y avait des risques donc de torture, de mort, tu sais, de persécution. Mais la seule affaire qu'ils ont accordée, c'est que l'article 15 qui repose sur l'identité, ben, sur le fait que des personnes peuvent être persécutées en raison de leur genre, leur identité de genre ou leur sexe, ça a été renvoyé en Cour fédérale pour être traité. Mais sur le fond, ça a été rejeté. Et sous prétexte que le régime législatif canadien prévoit des mécanismes d'exception et d'exemption dans les cas où des atteintes à la liberté seraient suspectées, et ça respecte, selon la Cour, les principes de justice fondamentale, mais sauf qu'on dit que c'est quand même quelque chose. Lorsque les soupapes de sécurité de la loi s'appliquent, les demandeurs d'asile peuvent être à l'abri d'un renvoi. Dans les cas où les autorités administratives n'utilisent pas ces soupapes, c'est-à-dire certains mécanismes d'exception, le juge souligne que la loi demeure valide, mais que les personnes lésées peuvent malgré tout tenter d'obtenir réparation sur une base individuelle après coup.
Non, mais c'est ça.
C'est quand même, c'est ça. En tout cas, je vous résume vraiment certains éléments du jugement.
Ils n'ont rien que ça à faire d'abord.
Ben, c'est ça. Puis en terminant, ben, des chiffres. Alors que les interceptions à la frontière terrestre ont descendu en flèche, hein, passant de 4087 en mars à 69 en avril au Canada, le nombre de demandes d'asile dans les aéroports a triplé si on compare entre avril 2022 et avril 2023, passant de 565 à 1490. Au final, le nombre de nouveaux demandeurs d'asile arrivés au pays au cours des quatre premiers mois de l'année, soit près de 25 000 personnes, est le même que celui de l'an dernier. Mais c'est plus par le chemin Roxham, c'est par les postes frontaliers, par les aéroports, par voiture, etc., etc. Donc, voilà pour les actualités immigration Québec-Canada. En bref, Marie-Ève, écoute, je te passe le micro. Tu vas nous parler d'un sujet vraiment important, mais dont les médias ne parlent pas beaucoup. Hein.
Non, pas tant que ça, malgré que quand même Radio-Can ont fait un pire de couverture là, par rapport à ça. Mais c'est en lien avec ton sujet aussi, hein, parce que qui dit fermeture des frontières dit détention. Fait que là, il y a le Québec, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, qui ont annoncé il y a deux semaines là, qu'ils mettaient fin à l'incarcération de migrants dans leur prison pour des raisons administratives liées à leur dossier d'immigration. Mais parallèlement à ça, le gouvernement fédéral a obtenu il y a deux jours des prolongations de ses contrats avec deux provinces, c'est-à-dire l'Alberta et la Colombie-Britannique, dont les ententes avec la SFC, avec l'Agence des services frontaliers, arrivaient à échéance respectivement, là, demain pour l'Alberta et fin juillet pour la Colombie-Britannique. ils ont prolongé les ententes actuelles, l'Alberta jusqu'au 29 septembre prochain et la Colombie-Britannique jusqu'au 31 octobre. Mais pour la Colombie-Britannique, la prolongation touche seulement les ressortissants étrangers déjà détenus et va plus accepter de nouveaux détenus de l'immigration à partir du 1er août.
Pour l'instant, c'est ce qu'ils disent, mais
ça
se négocie.
Faut savoir que l'Agence des services frontaliers peut décider de détenir les personnes migrantes dans l'un de ses trois centres de surveillance de l'immigration, qui sont fédéraux, ou dans des prisons provinciales en attendant le dénouement de leur dossier. Il y a environ 2000 des quelques 8000 migrants que la SFC a détenus en moyenne chaque année de 2015 à 2020, qui ont été renvoyés dans des établissements correctionnels provinciaux, c'est-à-dire le quart. Et si le nombre de détenus de l'immigration a chuté d'environ 3 000, pas d'environ, mais à environ 3 000 durant la dernière là, année financière 2021-2022, ben, Près du corps était toujours incarcéré dans les prisons provinciales.
Ouais.
Dans un article de Radio-Canada du 13 juin, l'agence soutient que, et là je cite, que 73 % des individus détenus dans les établissements correctionnels provinciaux sont interdits de territoire pour des raisons de grande criminalité. C'est une affirmation pour le moins douteuse.
Ouais, c'est bizarre, ça, ouais.
Parce que selon les données même de l'agence, la vaste majorité sont détenus parce que l'agence craint qu'ils se présenteront pas à leur procédure de renvoi. Donc, c'est pas pour des raisons criminelles. Et selon plusieurs avocats en droit de l'immigration, l'agence utilise le terme « grande criminalité » un peu comme un fourre-tout. Et aussi pour faire peur. De l'avis de plusieurs, si certains migrants ou migrantes ont commis des crimes par le passé, ben il s'agirait souvent d'erreurs de jeunesse, comme on dit, ou encore de crimes qui posent pas tant de danger que ça pour la société. Et pour ma part, ben je rajouterais que il y a le code criminel hein, qui existe pour juger des crimes, et que d'ajouter la déportation à l'emprisonnement d'une personne reconnue coupable d'un crime, ben constitue une double peine. Injustifié.
Injuste et cruel, ouais.
Jusqu'à maintenant, ce sont 8 provinces, parce que là, faut ajouter le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan, qui ont donné le préavis nécessaire d'un an à l'agence pour résilier leurs ententes en matière de détention de l'immigration. Mais là, un des problèmes, c'est que le gouvernement fédéral a absolument aucun plan B, aucun plan de rechange.
Mais on voit ça, s'ils font des rallonges de même de...
C'est ça. Ouais. Là, pour l'instant, l'île du Prince-Édouard continue d'accepter des personnes migrantes dans ses prisons, même si elle n'a pas d'entente formelle avec la SFC. La province avait entrepris des discussions avec le gouvernement fédéral pour arriver à une entente formelle en 2020, mais elle y a mis fin en 2021 à ces discussions-là.
Okay.
L'île du Prince-Édouard serait en pourparlers aussi avec les provinces pour arriver avec une position commune. Toutes les provinces. Puis de son côté, ben Terre-Neuve et Labrador n'ont pas d'entente officielle non plus avec la SFC, mais on ne sait pas si la province va continuer à emprisonner des migrants au cas par cas, comme elle l'a fait par le passé. La détention des migrants dans des établissements correctionnels est évidemment dénoncée là, par
plein de groupes,
partout,
plein de monde.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Parce qu'on qualifie cette pratique-là de contraire au droit international, entre autres parce que ben une personne migrante ne sait jamais quand est-ce qu'elle va sortir de prison puisqu'il n'existe pas de durée limitée à la détention liée à l'immigration. D'ailleurs, en début de semaine, il y a 45 groupes canadiens et internationaux, autant là, des cliniques juridiques, des avocats en droit de l'immigration, des centres d'aide aux réfugiés et des organismes de défense des droits de la personne, qui ont envoyé une lettre au premier ministre Trudeau pour réclamer de son gouvernement qu'il cesse immédiatement d'emprisonner des personnes migrantes. Dans cette lettre-là, qui est aussi adressée au ministère de la Sécurité, au ministre de la Sécurité publique, Mendicino, et au ministre de l'Immigration, Fraser, les signataires font valoir que, au lieu de transférer les personnes d'une province à l'autre en vue de les maintenir en détention, ben, le gouvernement fédéral devrait investir pour développer des programmes locaux d'alternatives communautaires à la détention. Puis, en terminant, ben, il y a aussi une délégation de personnes migrantes impliquées dans SSF qui sont rendues au bureau de Montréalais de Trudeau le 14 juin dernier pour réclamer, bien sûr, la fin des détentions. Rappeler au gouvernement ses promesses aussi de programme de régularisation massive, là, qui a toujours pas été annoncé. Mais aussi en réaction à une vague de visites à domicile d'agents de la SFC visant à arrêter des sans-papiers et en réaction aussi à une augmentation des avis de déportation reçus par des personnes réfugiées refusées à Montréal. Fait que
c'est pas mal ça.
Je voulais vous parler du programme de réunification familiale, mais...
Il y a des changements, là, ouais, c'est ça.
Mais
ouais.
Bon,
prochaine fois,
pour une prochaine fois.
Ben d'ailleurs, c'est ça, il y a eu un petit rattrapage de la pandémie, hein, ça a l'air, au niveau des déportations. Il y en avait moins eu.
Oui, puis, c'est ça.
Même pendant la pandémie, il y a eu des mesures alternatives pour que les gens soient pas détenus parce qu'il y avait le virus, mais là, ils ont décidé que les gens retournaient en dedans. À l'époque, les gens pouvaient être à la maison, chez des gens, chez des proches.
Ça fait partie des arguments avancés par des groupes, justement, qui disent, ben arrêtez des emprisonnés. Là. Pendant la pandémie, on avait des solutions.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève, pour cette synthèse de ce sujet-là, dont on va continuer à se préoccuper dans les prochaines semaines. Donc, on y va en musique immédiatement avec le groupe australien King Stingray et la pièce « Répiri ». le groupe King Stingray, la pièce Ripiri, qui devrait vouloir dire discipline selon mes recherches, en langue Yolngu, Y-O-L-N-G-U, c'est un peuple australien du nord de l'Australie. Le sextet King Stingray est composé de 3 membres de ce peuple-là et 3 personnes blanches. C'est un groupe de surf rock qui existe depuis plusieurs années. Cet album éponyme-là est sorti l'année passée au milieu de 2022. Je voulais en faire juste, je trouve ça intéressant comme découverte, un surf rock avec des membres d'un peuple qu'on connaît pas.
C'était pas mal bon, en tout cas.
Oui, c'est ça. C'est une des meilleures tunes de l'album. Donc,
c'est drôle, sans savoir que c'était australien, ça me faisait penser à Midnight Oil un peu.
Oui, c'est vrai, le ton, hein? Ouais, ouais.
Le son de la guitare.
Le son de la guitare, t'as raison. Donc, voilà. Midnight Oil qui parlait justement des enjeux autochtones aussi à l'époque. Quelques petites actualités internationales justement en lien avec les autochtones. Au Brésil, les députés ont voté un projet de loi limitant la démarcation des terres indigènes, un revers pour le président Lula qui avait relancé la politique de protection des peuples autochtones et de l'Amazonie. Ce texte établit que les autochtones n'ont droit qu'aux terres qu'ils occupaient au moment de la promulgation de la Constitution en 1988. Une thèse rejetée par ceux-ci qui argue qu'ils n'occupaient pas certaines terres en 88 parce qu'ils en avaient été chassés au fil des siècles, notamment pendant la dictature militaire des années 60 aux années 80. Le projet de loi qui doit être encore soumis au Sénat avant d'entrer en vigueur était promu par des députés favorables à l'industrie agroalimentaire et par d'autres groupes d'opposition de droite. L'approbation du projet met fin à l'espoir pour l'avenir, a déploré la ministre brésilienne des peuples indigènes, Sonia Guajajara, dont je vous ai parlé il y a quelque temps. Le Brésil compte au total 764 territoires de peuples indigènes, mais environ un tiers d'entre eux n'ont jamais été clairement délimités par des mesures de protection. Comme j'en avais parlé précédemment il y a quelques semaines, en avril, le gouvernement de Lula a reconnu 6 nouveaux territoires, les premiers en 5 ans, dont on a recommencé le démarquage qu'appelle. Mais là, ça va être un petit peu compliqué. Le Parlement brésilien, qui est contrôlé par les bolsonaristes et leurs alliés, pourrait infliger une nouvelle défaite à Lula s'ils approuvent un projet de modification des attributions de plusieurs ministères, au détriment notamment de ceux de l'environnement et des peuples indigènes dans les prochaines semaines. Donc, c'est ça. C'est une bonne nouvelle, Lula, pour certaines choses, mais c'est pas simple. Sinon, rapidement, au Costa Rica, dans le nord du pays, sur les flancs du volcan Tenorio et les rives des eaux turquoises du célèbre Rio Celeste, le peuple autochtone Malecu réclame en vain de sa part des retombées du tourisme sur ses terres ancestrales. Un petit lac et sa cascade haute d'une 30aine de mètres font chaque jour la joie d'un millier de touristes. Mais les visiteurs ne poussent jamais jusqu'au petit village autochtone de Palenque Margarita, où des Malecu leur ont pourtant préparé tout un programme de découverte de leur culture ancestrale au prix de 65$ par personne, avec des guides en langue Malecu et espagnol, évidemment. La nation Malecu est l'une des 8 peuplades... c'est dans l'article de l'Agence France-Presse, là.
T'as lu ça dans le routard.
Oui, c'est ça, pardon, des 8 peuples autochtones du Costa Rica, qui représentent 2,4% des 5,2 millions d'habitants du pays. Les Malecu, qui revendiquent le Rio Celeste comme faisant partie de terres ancestrales usurpées, se plaignent amèrement que le gouvernement costaricain empoche les droits d'entrée au parc national sans qu'ils en profitent. Aujourd'hui, seuls 3 villages occupent moins de la moitié du territoire ancestral. Ce territoire du Rio Celeste déplore Dagoberto Elizondo, qui est un guide Malecu. Nous l'avons perdu, maintenant il est au gouvernement. Donc il y a des luttes quand même là-bas au Costa Rica, mais c'est un paradis du tourisme, le Costa Rica, mais on sait pas trop qu'il y a des peuples autochtones qui ont été déplacés pour faire des parcs.
Touristes qui se prétendent souvent équitables.
C'est ça, voilà.
Plus champ gauche. Là,
mais il y a beaucoup de choses à faire aussi. Donc voilà pour mes petites nouvelles autochtones internationales. On va y aller, je pense, mesdames et messieurs, avec le retour de la Minute coloniale.
Les apatrides anonymes vous présentent la Minute coloniale. C'est avec un enthousiasme renouvelé année après année, depuis les modestes débuts de la colonie, que les Canadiens français rendent un hommage bien senti à leur saint patron, le cousin de notre Seigneur Jésus, soit le petit Jean dit le Baptiste, toujours interprété par un garçonnet délicieux à croquer, aux joues bien roses et aux généreuses boucles d'or, garçon soigneusement sélectionné parmi les meilleurs éléments de la toute jeune gens masculine de la paroisse, venant ainsi admirablement compléter la horde d'adorables chérubins potelés qui agrémentent les fresques de mon église. Aux alentours de la Saint-Jean, fête aux origines vulgairement païennes qui se perdent dans les profondeurs de l'aventure humaine sur Terre, les tribus anciennes festoyaient au solstice d'été en allumant d'immenses feux de joie pour célébrer, vous n'en croirez pas vos pauvres oreilles, la lumière. Vous me demanderez, mais mon très cher diacre, comment pouvait-on être si naïf ou primitif pour rendre hommage à une telle abstraction? Eh bien, foi du Saint-Esprit de l'Immaculée Conception, je n'en sais trop rien. Heureusement, en 1694, Monseigneur de Saint-Vallier en fit une fête chômée vouée à la dévotion, qui malheureusement, comme tout le reste d'ailleurs dans cette société en dérive, perdra peu à peu son sens religieux, sans jamais plus de garçonnet blondinet pour nous émerveiller le Canadien lors des saintes processions. C'était la Minute Coloniale, présentée par les Apatrides Anonymes.
Marjo, où es-tu?
Oui, bien, version karaoké, elle n'est pas là.
Elle n'est pas là, fallait chanter, hein, c'est ça. Donc, la Saint-Jean-Baptiste, c'est une fête religieuse, Simon.
Eh oui, mais comme tout le reste, ça a été vendu sur le sacrifié sur l'autel du nationalisme.
Et du party.
C'est ça, de la bière. Donc, je sais pas trop. Donc, pour préparer cette minute coloniale, je disais un peu sur l'histoire de comment c'est passé, justement, de fête religieuse à fête nationale. C'est quand même intéressant, c'est passé par plein d'étapes historiques de récupération politique aussi, à la fois par les Patriotes, par Duplessis, par René Lévesque. C'est lui qui a rebaptisé la Saint-Jean officiellement fête nationale pour que ce soit plus inclusif. Donc c'était ça vraiment le terme qui était
Duplessis,
utilisé.
Duplessis, ça? Ouais.
Non, René Lévesque.
Excuse-moi.
Non, Duplessis, c'était la Saint-Jean. Là, donc René Lévesque qui a posé un des premiers gestes woke, donc particulièrement précoce. Oh. Vraiment, il parlait d'inclusivité là, à ce moment-là.
Oui.
Donc article complet dans l'encyclopédie canadienne,
oui,
qui
monsieur.
S'appelle tout simplement Fête nationale du Québec, mais il y a quand même des choses intéressantes là-dedans.
Okay.
Sinon, ce qui a retenu notre attention cette année en lien avec la Saint-Jean, c'est le déferlement d'insultes et de haine qu'a reçu Émile Bilodeau.
Oui, bien sûr.
Suite à sa nomination comme animateur du grand spectacle du 23 juin sur les plaines à Québec, notre cher Émile qui avait osé porter un macaron anti-projet de loi 21, la loi caquiste dite de la laïcité de l'État, lors d'un autre spectacle de la Saint-Jean en 2020.
Oui, oui.
Donc, dans certains cercles nationalistes, on le décrit comme un traître à la nation, donc rien de moins.
Oui.
On a exigé sa cancellation pure et simple, mais c'est pas arrivé. Donc, même le MNQ, le Mouvement national des Québécois, qui, je crois, est un genre de fédération des différentes sociétés Saint-Jean-Baptiste à travers le Québec, donc je pense que ce qui est le plus...
C'est plus varié que ça, mais sont quand même nationalistes, ouais.
Puis c'est eux qui organisent les défilés, les principaux spectacles. Donc, ils ont tenu tête au déferlement anti-Émile Bilodeau et ils l'ont maintenu comme animateur du spectacle à Québec. Puis, d'après ce que j'ai lu, ça s'est très bien déroulé dans une ambiance festive. Et...
J'imagine, je ne l'ai pas regardé.
Ah, moi non plus. Il y a le PQ qui s'est cancellé lui-même en refusant des invitations à participer à des activités protocolaires en marge de ce spectacle sur les plaines, en disant que Bilodeau était un choix pas rassembleur, comme si des lois qui font perdre leur travail à des femmes musulmanes, c'était très rassembleur.
Oui, c'est très rassembleur.
Donc, écoutez, chaque année, cette petite controverse, comme l'hérésie d'inviter des artistes anglophones à chanter, on s'en rappelle il y a quelques années.
À l'autre Saint-Jean.
Lake of Stew, Bloodshot Bill.
À l'autre Saint-Jean, malheureusement.
Des jeunes noirs qui tirent un char sur lequel se trouve Annie Villeneuve, une chanteuse blonde, blanche et toute de blanc vêtue. C'était une très belle image, très chic.
Ça, c'était il y a
donc,
deux ans.
Donc, j'ai hâte à l'année prochaine pour le prochain scandale.
Mais Paul Piché, il a défendu Émile Bilodeau quand même.
Ah, fait que,
okay. Oui. Ben, okay. Il a blâmé le PQ. Oui. Fait que ça fait des beaux débats entre à la fin de l'école, à la fin juste avant les vacances donc d'été. Ben merci beaucoup Simon pour ce rappel de la Saint-Jean historique et récent
ben oui,
dans
merci.
Les derniers jours. On va y aller Marie-Ève avec le marqueur qui nous annonce l'agenda. Ben, ça sera pas des manifs cette semaine, mais certains films qui parlent de mobilisation, évidemment. Donc, depuis 2010, le cinéma sous les étoiles de Funambule Média propose une programmation de cinéma en plein air. Cette 14e édition se déploie à travers près de 50 projections citoyennes et gratuites dans 15 parcs élus de diffusion extérieure de Montréal. La soirée d'ouverture prévue mardi dernier a été remise à demain soir, vendredi 30 juin, en raison de la température. Donc, c'est à 19h au Parc Laurier. Le film d'ouverture, c'est « Mon pays imaginaire » de Patricio Guzman, chilien. Son synopsis, c'est « Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. Le Chili avait retrouvé sa mémoire. L'événement que j'attendais depuis mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin. » Donc, ça risque d'être assez intéressant comme film d'ouverture. J'en ai souligné 3-4 autres pour vous. Not on Displacement, qui est le 6 juillet. Je vous lis encore une fois le résumé. Les nouvelles sont remplies d'images inquiétantes de bateaux surchargés, de vastes tentes de campement. Mais que savons-nous vraiment de ce que vivent les réfugiés? Note on Displacement nous plonge dans un exil éprouvant. Nadira, une femme palestinienne, est réfugiée depuis l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, elle doit également évacuer Damas en Syrie. Elle et sa fille Mona craignent pour leur vie, mais l'idée d'une vie sécuritaire ailleurs n'est qu'un rêve lointain. Le cinéaste Khaled Jarrah reçoit des vidéos et des messages vocaux inquiétants alors qu'elle traverse vers l'île grecque de Lesbos. C'est là qu'il les rejoint sur le long chemin d'une nouvelle vie. Ça, c'est 2022. Donc, Khaled Jarrah, Allemagne, Palestine, Qatar, au niveau des pays producteurs. Sinon, Washigi Lo, End of the Peace, c'est le 3 août, réalisé sur 5 ans par la cinéaste Aida Ether Hatch. Ce documentaire suit la lutte des membres des Premières Nations de West Moberly et de Prophet River contre le gouvernement de la Colombie-Britannique au sujet d'un méga barrage qui dévastera la vallée de la rivière de la Paix, entraînant plusieurs enjeux environnementaux, sociaux, humains et légaux. 2023, Canada, donc ce film. Seul qui passe les 5 et 30 août. Chaque année, plus de 400 enfants arrivent seuls à la frontière canadienne pour demander le statut de réfugié, craignant pour leur vie. Ashfin, Alain et Patricia ont quitté leur pays sans leurs parents. Et elles ont tous les trois entamé un périple qui allait les mener après plusieurs mois d'incertitude au Canada. Ashfin a quitté l'Iran en 86, Alain le Burundi en 2009 et Patricia l'Ouganda en 2019. C'est Paul Tom qui a réalisé ça en 2021, c'est un film du Québec. Et je termine avec El Silencio del Topo le 19 août. Tout au long des années 70, le journaliste Elias Barahona s'infiltre au cœur du gouvernement militaire le plus répressif de l'histoire du Guatemala. En cherchant à découvrir l'histoire de cet individu secret unique, le silence de la taupe ouvre des fissures dans les murs du silence. Donc, un film de 2021 du Guatemala de Anaïs Taracena. Et il y a aussi des films qu'on a vus ou qui ont déjà passé souvent, Le mythe de la femme noire, ouais. Big Fight in Little Chinatown, qu'on a vu les trois.
Ouais, mais en version complète cette
fois. En version longue, ouais, exactement, sur les quartiers chinois. Il y a des films aussi qui ont sur la Colombie, sur différents enjeux. Il y a vraiment une belle programmation. Donc, cinémasurlesétoiles.org pour notre plus grand plaisir. C'est malheureusement déjà la fin de l'émission. Donc, Simon, merci beaucoup pour ta contribution.
Merci à toi, Mathieu.
À la technique et au contenu. Marie-Ève, la même chose.
Ben oui.
Merci beaucoup.
Ben oui. C'est toujours un plaisir, cette émission.
Ben oui, ben oui. C'est Mathieu qui vous parlait comme animateur ce soir. Vous dire qu'on est diffusé sur les ondes de Radio Victoria les mercredis, dimanches, sur les ondes hertziennes dans ce cas-ci. Sinon, pour les ondes virtuelles ou digitales, c'est sur le site de choc.ca ou sur notre site, Simon, apatridesanonymes.info.
Oui, voilà.
Pour toutes les émissions. On a un courriel apatridesanonymes@resist.ca et on a une page Facebook ou, pardon, FB.
Bon, FB.
Tu l'as dit, là.
On l'aura plus bientôt parce qu'on partage des articles de médias méchants qui veulent faire payer des redevances au gros plein de cash sur le web. Donc,
au gros plein de cash, j'ai peur que t'aies dit que t'allais dire d'autres
choses. Au gros plein de soupe?
Oh!
Ça serait méchant.
On enchaîne,
mais on est dans les temps, Simon, donc tout va bien. Donc, on remercie beaucoup les gens de nous écouter. On revient en onde le 13 juillet, donc dans deux semaines à 18h30. Et sinon, ben, on va finir en musique, comme d'habitude, avec un groupe plutôt pesant, plutôt dérangeant, plutôt un petit peu agressif.
Tu s'appelle... as été agressé, hein?
Parce qu'en show, c'est quelque chose.
Ah, oui, on les a vus en concert au Festival de musique actuelle de Victoriaville il y a à peu près un mois, un peu plus qu'un mois. Ouais. C'est un groupe, c'est trois musiciens italiens avec un Américain qui est chanteur du groupe américain Oxbow, qui est un groupe métal expérimental assez connu. Eux, c'est leur troisième album qui s'appelle Killers Like Us, sorti en 2022, mais ils se voient de temps en temps. Puis là, le show à Victoriaville, c'était le seul qui donnait en 2023 là, pour l'instant. Là, ils sont vraiment venus pour ça. Donc, ce mélange de métal, de hardcore,
de spoken word,
de psychédélique, prog, mais aussi d'actuel. Là. Donc, C'est intéressant, vraiment, là, l'album
c'est
est très,
très clair, tout ça. Là.
Ben, là, franchement,
c'est pas très clair.
C'est pas ton amateur, là.
Monsieur le diacre.
Donc, beau magma de musique intense et des textes assez crus aussi. Donc, puis sur scène, ben, faut le dire, le chanteur.
C'était assez cru.
Oui, oh, il est quasiment tout nu à la fin, là. Fait que c'est comme ça que ça se passe, tu sais, par chez nous. Hein? Fait que.
C'est de même qu'on joue de la musique, tu sais.
Donc, oh, on va la misère à finir l'émission. Donc, Bunuel.
Ça dérape juste à la fin, sinon.
Bunuel, la pièce When We Talk, donc notre dernière pièce de l'émission. Merci tout le monde. À bientôt.
À bientôt.
Bonne soirée.